Gloire à Dieu. Ce soir, on va faire encore un sujet qui a rapport à la prière, mais on va parler du jeûne. Le jeûne selon Dieu. À quoi que ça peut servir de jeûner? On va voir l'importance du jeûne, parce que le savoir, c'est une chose, mais quand on commence à mettre ça en pratique, il y a quelque chose de plus qui se passe. Puis la Bible, elle dit qu'il y a quelque chose de plus. C'est miraculeux. C'est un exercice spirituel qui fait partie de la vie chrétienne. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais jeûné, peut-être qu'il y en a qui ont déjà jeûné, mais qui ont abandonné. On va voir avec ce qu'on va voir à soir. J'espère que ça va encourager tous les frères et sœurs à commencer à pratiquer cet exercice-là. Parce que ça fait partie du combat spirituel que le chrétien doit livrer dans l'intercession. Ça accompagne la prière. Le peuple juif, dans le temps de Jésus, il connaissait ça, la pratique du jeûne, parce que c'était quelque chose qu'il pratiquait déjà pendant une fête que Dieu avait préparée pour que le peuple puisse se repentir devant Dieu. Cette fête-là, c'était spécialement dans le but de se repentir puis de s'humilier devant Dieu par le jeûne. Dans Actes 27, ça nous parle de l'apôtre Paul quand il était parti juste avant de faire un naufrage avec le bateau, quand il était comme emprisonné. Ça dit dans ce passage-là, un temps assez long s'était écoulé, puis la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. On voit là-dedans que le peuple juif, il y avait une époque à chaque année de jeûner. C'était comme une pratique que tout le peuple faisait. Tous ceux qui avaient la foi dans ce temps-là jeûnaient. Puis ils appelaient ça l'époque du jeûne. Puis Paul s'en est servi pour désigner ça parce que tout le monde savait que c'était alentour de mi-septembre au début octobre que ça se passait, cette fête-là. Dans le commentaire biblique, c'est le jeûne d'automne. C'est un autre nom qui est donné pour la fête juive des expiations. On arrive à ça, là, les fêtes d'automne pour le peuple d'Israël. Puis la fête des expiations, c'est une journée au cours de laquelle le grand prêtre il offre un sacrifice pour les péchés du peuple au complet. C'est qu'il rentre une fois par année dans le lieu très saint pour aller porter une offrande. Mais il y avait une pratique que les gens devaient faire parmi le peuple, une pratique qu'ils devaient faire, c'est d'humilier leurs âmes pour démontrer qu'ils se repentaient, parce que c'était une fête d'expiation. Il fait que le sacrifice était dans le but de pardonner les péchés du peuple, mais il fallait qu'il y ait un cœur prêt à être pardonné, un cœur qui voulait être pardonné. Dans Lévitique, le chapitre 16, quand il parle de ça, verset 29, puis là, Dieu dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. On voit que ça ne devait jamais être arrêté, cette fête-là. Il dit, au septième mois, là, faut pas se tromper, c'est le septième mois dans le calendrier lunaire et non dans le calendrier grégorien qu'on a aujourd'hui. Puis ça tombe dans le mois de septembre, fin septembre pour nous. Le septième mois, le dixième jour du mois, il dit, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, c'est un sabbat de plus à rajouter dans cette semaine-là, un jour qui ne devait pas travailler, mais consacrer ça à Dieu, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. On voit deux fois qu'il mentionne l'idée d'humilier son âme. Puis la manière que le peuple juif humiliait leurs âmes, eux autres, c'est par le jeûne. Ils enlevaient leurs vêtements, ils revêtaient un sac. Donc, je te parle dans ce temps-là, je te dis pas qu'ils font encore ça aujourd'hui, mais il y en a peut-être qui le font. Puis ils jetaient de la poussière sur la tête, là, puis la manière qu'ils jeûnaient, c'était une manière de s'humilier en s'habillant d'un sac simplement, puis de se coucher à terre, puis de s'envoyer de la poussière. Comme Bernard a dit tantôt, de s'humilier, qu'on est poussière, puis on retourne à la poussière. Puis humilier ton âme, c'est vraiment de faire des gestes physiques pour t'abaisser. c'est surtout parce que l'humain, il est trop porté à se penser bien bon, bien fin, puis il mérite tout. Mais en réalité, devant Dieu, personne qui mérite rien. Puis Dieu était prêt à le pardonner en autant qu'il humiliait leurs âmes. Juste aller porter le sacrifice, c'était passé. Fallait qu'ils humilient leurs âmes. C'est un peu la même idée quand ils nous demandent de se repentir avant d'accepter Jésus qui est le sacrifice. La repentance, c'est une humiliation intérieure de regret puis de vraiment... Tu démontres que tu as un genre de dégoût où tu veux vraiment changer ta vie. Tu veux que ça change. Tu veux plus rester dans tes péchés. Repentance, tu veux sortir de là. Mais en même temps, tu regrettes de les avoir faites. Fait que l'humiliation, elle servait à cela. Puis, il faisait par le jeûne. Le jeûne, à la base, avec cet enseignement-là, c'est dans un but de t'humilier devant Dieu. C'est d'une privation que le monde se donnait. Il faisait pas juste mettre le sac, il pouvait ne pas manger aussi dans cette période-là, se priver de certaines affaires qu'on a droit, mais tu décides de t'en priver par rapport que tu veux montrer à Dieu que tu veux vraiment ce que tu veux. Le Seigneur lui a enseigné que le jeûne doit être fait devant Dieu. Et non devant les hommes pour paraître spirituel. Parce qu'il y en a qui veulent montrer qu'ils sont bien bons, comme le gars qui est pris dans le temple, puis il dit, je te rends grâce que je suis pas comme ce publicain, il dit, je jeûne 3 fois par semaine. Bon, ben là, quand tu commences à te vanter de tes jeûnes, là, c'est comme t'es pour toi des exploits, tu veux te montrer devant le monde, puis te montrer beau, puis te montrer bon, puis bien spirituel. Ça, là, ça n'amène pas à une humiliation intérieure, ça c'est de l'orgueil. Lui, Seigneur, il dit, lorsque vous jeûnez, dans Matthieu 6, 16, ça dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il y en a qui font exprès de se vanter qu'ils ont jeûné. Puis même, il y en a qui, comme ils se rendent le visage tout triste, puis ils se lamentent, oh, comme s'ils sont en train de jeûner pour montrer qu'ils jeûnent, pour se faire prendre en pitié, puis se faire valoriser. On fait pas les jeûnes devant les humains, on fait les jeûnes devant Dieu. On le dit pas. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils n'auront aucun mérite ou avantage devant Dieu en montrant aux autres qu'on jeûne et qu'on se vante de ça. Mais quand tu jeûnes, pour pas montrer que tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est la même réponse qui a été donnée aussi quand il parle de la prière. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. La prière doit être faite en secret, mais les jeûnes avec. C'est devant Dieu que lui voit dans le secret, puis lui, ton Père qui voit dans le secret, il va te le remettre. Ça veut dire, quand tu t'engages à un jeûne, c'est officiel que tu vas recevoir quand il est bien présenté. Et dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça se peut pas que quelqu'un fasse un jeûne puis qu'il n'y ait pas une suite, une bénédiction qui vient de Dieu, qui sera pas là. Non, Dieu l'a promis qu'il se passera quelque chose quand c'est bien fait. Le jeûne est une arme pour le combat spirituel. C'est un exercice de combat qui nous permet de remporter des victoires qui ne seraient pas gagnées sans le jeûne. Jésus l'a expliqué dans Matthieu 17, le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité, mais le mot il est plus rapport, c'est à cause de votre petitesse de foi. Parce qu'incrédule ou peu de foi, c'est pas marcher dans la foi. Puis il va expliquer pourquoi que Jésus dit ça. Jésus leur dit, je vous le dis, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, non pas gros, si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, puis elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible si on aurait la foi comme un grain de sénévé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Un grain de sénévé, tu le prends, tu le mets dans la terre, ça pousse. Puis si on aurait de la foi comme un grain de sénévé, il y aurait un résultat. Si on n'arrive pas à avoir ce qu'on demande, c'est parce que notre foi est trop petite. Notre foi n'est pas démontrée assez forte devant Dieu. Il ne voit pas la foi qu'il reçoit. Il dit dans ce passage-là, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il est en train de dire que quand tu vas te mettre à jeûner dans ta prière, là, tu es en train de démontrer une foi encore plus grande. Puis là, il va se passer que ce démon-là, qui ne sortait pas autrement, il va sortir. Parce que là, tu as jeûné. Il est en train de dire que le secret d'une foi victorieuse, c'est dans le jeûne. C'est ça qu'il est en train de dire. Là, on parle pour un démon, mais ça peut être pour les autres sujets de prière. Peut-être que s'il ne se passe pas grand-chose dans les églises, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas grand jeûne qui se fait. Je dis ça de même. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Dans Strong, quand il parle d'incrédulité, là, c'est ce mot-là, il veut dire infidélité ou sans foi ou manque de foi. Une incrédulité, c'est aussi faiblesse dans la foi. Fait que c'est pas qu'il n'y avait pas de foi du tout, parce qu'il y avait foi en Dieu. Puis il y avait foi qu'il pourra prendre autorité et chasser l'esprit. Mais il n'a pas sorti. Il y avait une foi, mais pas assez de foi. Il manquait le jeûne, qui aurait été un coup de marteau pour le faire sortir. Il n'a pas sorti. Tu peux avoir la foi que le démon va sortir dans le nom de Jésus, mais qu'il ne sort pas parce que tu n'as pas eu assez de foi. Cette foi-là aurait été plus puissante avec le jeûne. C'est ça que Jésus explique. Jésus lui-même il a jeûné avant de débuter son ministère. Même lui, qui est Dieu fait homme, qui est Dieu exauce à toutes ses prières, il a pris la peine de jeûner, puis il a jeûné pas un à peu pareil. Cette fois-là, il a jeûné 40 jours, sans manger ni boire. Ben là, c'est pas moi qui le jeûne, quand il a fini son jeûne, il a eu faim après 40 jours, imagine-toi. Dans Strong, le jeûne, là, le dictionnaire biblique, il dit c'est s'abstenir, pour qu'il donne une explication, c'est quoi le jeûne? C'est s'abstenir à titre religieux de nourriture et de boisson. Soit totalement, c'est parce qu'il y a des jeûnes totales qui ne mangent pas pantoute pendant X temps, ou qui ne boivent pas pantoute pendant X temps. Puis, si le jeûne dure seulement qu'une journée, ou soit qu'ils prennent de la nourriture simple, comme il y a, dans l'histoire de Daniel, il a mangé des mets délicats. Ça veut dire peut-être qu'il a mangé des sandwichs au lieu de manger les gros mets préparés. Tu te prives sur qu'est-ce que tu auras droit sur quelque chose. Tu as le droit de manger normalement, l'habitude, mais là, tu peux dire, je vais manger des sandwichs pendant une semaine pour montrer que je me prive de nourriture délicate. Mais les jeûnes, ça peut être fait comme qu'on le décide. Puis c'est, il y en a qui peuvent dire que je ne prendrai pas de bière pendant X temps. Mettons, si quelqu'un il en boit une fois de temps en temps, un autre va dire, je prends pas de dessert pendant X temps. Un autre va se priver sur d'autres choses. Mais l'idée, c'est de se priver sur qu'est-ce qu'on aura le droit. Il y a plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, dont Daniel, qui pratiquaient le jeûne pour voir la réalisation des prophéties. Parce que les prophéties annonçaient quelque chose, mais ils voulaient comprendre, puis ils voulaient que ça s'accomplisse, cette prophétie-là. Parce que lui, ça dit dans Daniel chapitre 9, verset 1, il dit « La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, il dit lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, il dit, moi, Daniel, je vis par les livres. » Là, il consultait le livre du prophète Jérémie, qui avait prophétisé la déportation à Babylone. Puis dans la prophétie, il avait dit que ça durerait 70 ans. Fait que là, il a eu un changement dans la politique de ce pays-là, parce qu'il y a eu un autre qui a pris la place de roi. Puis là, il a vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Puis c'était écrit dans le livre. Puis là, lui, il a lu ça. Puis là, il a catché. Hey, il avait dit que c'était pour prendre 70 ans. Là, il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Là, il humiliait son âme parce qu'il voulait que ça puisse s'accomplir, qu'il soit libéré au bout de 70 ans. La prophétie était là, mais la prophétie ne sera pas accomplie s'il n'y aura pas eu quelqu'un qui intercédait pour. Puis lui, quand il s'est rendu compte de ça, s'est mis à prier, à supplier Dieu, puis il a jeûné en prenant le sac et la cendre. C'est ça, je vous disais tantôt que dans l'humiliation, il enlevait le linge, il se mettait un sac sur le dos, puis il jetait de la poussière sur la terre. Il se roulait à terre dans la poussière en se jetant de la poussière pour s'humilier. Tu sais, l'autre jour, quand j'ai amené la parole, qui disait de se prosterner devant le Seigneur. Mais chrétiens doivent le faire. Puis le jeûne, c'est aussi un acte d'humiliation, comme se prosterner. Tu jeûnes, puis tu peux te mettre à genoux, tu peux te coucher à terre. Il y en a qui, quand ils prient pour s'humilier, vont se coucher à plat ventre à terre, puis en priant le Seigneur. Toutes les manières sont bonnes pour démontrer au Seigneur qu'on s'attache à lui, qu'on réclame vraiment ce qu'on veut. Des prières, des supplications, en jeûnant, puis en s'humiliant, en humiliant notre âme. Puis c'est de même que ça a débloqué, hein? Ça le dit que le roi qui était là, il a donné des lettres pour permettre à certains d'aller rebâtir la muraille à Jérusalem, pour rebâtir la ville, puis à retourner là, puis là, le peuple a commencé à y retourner, puis même s'il y avait de l'opposition, il était backé par une lettre du roi. Les personnes consacrées à Dieu, même dans l'époque de Jésus, là, des gens consacrés à Dieu qui aspiraient à voir Dieu agir, là, ils avaient recours au jeûne. Dans Luc chapitre 2, verset 36, ça dit que dans le temple, quand Jésus venait au monde, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, puis elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, puis elle est restée veuve. Après, elle a été mariée 7 ans, puis après ça, elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans les prières. 84 ans, n'as-tu que son proche de cet âge-là? Ça, là, tu vois que cette femme-là, là, était dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de voir le Messie, parce qu'elle l'a reconnu quand il est venu. Puis elle a prophétisé, elle a parlé, elle était connectée. C'est pour ça que Paul il dit que les veuves, ils vont se consacrer à la prière jour et nuit. Paul en parle dans les Épîtres. Mais là, on n'est pas obligé d'attendre d'être veuf ou d'être veuve pour commencer à prier et jeûner pour réclamer les promesses de Dieu ou les prophéties, mais on peut déjà le faire pour voir les choses avancer. Les anciens de l'Église d'Antioche, ils avaient recours aux jeûnes pour connaître les directions de Dieu. À l'Église d'Antioche, c'était une très grosse église à cette époque-là, quand que... Paul n'était même pas encore appelé au ministère. C'est là que ça s'est passé, dans Acte 13, au verset 2. Il dit, pendant, là, il était là, des hommes de Dieu, il y avait des prophètes puis des docteurs dans cette église-là. Puis pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, tu vois qu'eux autres aussi étaient axés dans le jeûne, dans la prière, à faire le ministère, c'était des prophètes puis des docteurs, des gens consacrés au Seigneur. Là, le Saint-Esprit a dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, là, ils ont reçu la parole du Seigneur en jeûnant et en priant, parce qu'il y avait des prophètes qui ont eu une parole. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Fait qu'ils jeûnaient et priaient avant, puis ils ont jeûné et prié après. Tu vois que les gens savaient que les prières doivent être baignées dans le jeûne. Si on veut voir la puissance de Dieu en action. T'as été voué partir, puis là, ça a été des ouvertures d'église un peu partout. Il n'a pas fait juste un voyage, il aurait fait 3 voyages missionnaires, mais quand même, Dieu accomplissait des signes, des prodiges, des miracles. Les apôtres avaient recours à la prière et au jeûne, eux aussi, avant d'imposer les mains et d'établir des ministères. Parce que les apôtres faisaient le tour par la suite des villes qui avaient évangélisé, puis il y avait des groupes de chrétiens. Puis là, ils voulaient établir des anciens dans chaque église. Puis ça le dit dans ce passage-là, dans Actes 14, 23, il dit, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » On voit encore, quand ces gens-là commençaient un ministère, ils jeûnaient et priaient pour ces personnes-là. Paul lui-même aussi nous a confié comment son ministère était rempli de combats dans les jeûnes. Dans 2 Corinthiens 11, 27. Là, il explique un paquet de souffrances qu'il a passé à travers, puis là, dans ça, il dit, « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Fait que ce gars-là, c'est un combattant. Oui, c'est un vaillant guerrier, c'est un soldat de Jésus-Christ. Il s'est donné au max, puis c'est un exemple pour nous. Puis je finis avec un dernier verset pour vous parler, que Yeshua il a dit que lorsqu'il ne sera plus là, que les disciples jeûneraient. Parce qu'au début du ministère de Jésus, les disciples de Jésus, eux autres, jeûnaient pas, mais les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Là, les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus, ils disent, « Hey, tes disciples, ils jeûnent pas, mais nous autres, nos disciples, ils jeûnent. » Dans Luc 5, 33, il dit, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Voyez-vous? Ça, c'est en train de nous dire que Jésus savait que ses disciples jeûneraient une fois qu'ils décolleraient. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis c'est ce qu'on sera supposé encore de faire 2000 ans plus tard. Il faut vraiment revenir à cela, frères et sœurs. Parce que ça, là, c'est le secret de la réussite. Il y a des églises qui sont en réussite, là, puis tu regardes le ministère, ils sont dans la prière puis dans le jeûne toutes les semaines. Il faut vraiment embarquer là-dedans, encore davantage. Peut-être qu'on le fait déjà, mais davantage, puis on va voir la main de Dieu à l'œuvre. Amen.